Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme d'Aix-en-Provence pour cette nouvelle séance de Livre et Mam. Je suis Myriam Scheer, enseignante-chercheure à l'INALCO et au CESMA. Livre et Mam est un cycle d'entretien organisé par l'IREMAM avec les auteurs d'ouvrages académiques récents sur les mondes arabes et musulmans. Cette séance est exceptionnellement organisée en collaboration avec le Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques, le CESMA. Nous recevons aujourd'hui Peter Limbrick pour évoquer son livre « Arab Modernism as World Cinema, The Films of Mohamed Smehi » qui est paru en 2020 chez University of California Press. Peter Limbrick est professeur of Film and Digital Media à l'University of California Santa Cruz. Ses recherches portent sur le cinéma en milieu colonial et post-colonial qu'il analyse entre autres à travers les grandes productions pour le travail qu'il a effectué sur la Nouvelle-Zélande, l'Australie et les États-Unis dans leur rapport avec l'Angleterre, ou sur les productions plus expérimentales réalisées notamment au Maghreb mais aussi au Mashrek dans le cadre de son travail actuel dont il va nous parler. Peter est actuellement résident à l'IMERA et titulaire de la chaire Camus Amidex. Dans le cadre de cette résidence, il mène des recherches sur un autre réalisateur marocain, Ahmed Bouanani, qu'il évoquera sans doute au cours de la discussion. Merci Peter d'être avec nous. Nous allons donc discuter de ce livre fantastique. Dans votre livre, vous donnez pour objectif de démontrer comment et pourquoi le cinéma arabe en général et le cinéma marocain en particulier, ont participé de manière intégrale à l'histoire du cinéma mondial. Loin d'être de simples copies ou variantes d'une pratique cinématographique née en Europe, ces écritures et langages cinématiques ont autant contribué à créer que façonner le modernisme et le réalisme du cinéma. Votre livre contribue à repenser et enrichir la théorie du cinéma, notamment la théorie du cinéma occidental, plutôt limitée. Votre démonstration et votre argumentation s'appuient principalement sur le réalisateur tangérois, Mohamed Smehi, dont vous faites dialoguer l'œuvre avec d'autres réalisateurs arabes, marocains, syriens, égyptiens, mais aussi des réalisateurs européens, italiens, français, indiens, des réalisateurs indiens ou encore des réalisateurs latino-américains. Pouvez-vous nous dire qui est Mohamed Smehi et pourquoi l'avoir choisi, lui, pour donner à voir et comprendre le modernisme cinématographique en général?
Mohamed Smehi, c'est un réalisateur marocain, né en 1945 à Tanger, au nord du Maroc, et qui a grandi dans la médina de Tanger, dans un petit coin de la médina, à deux pas de la synagogue juive, de l'église catholique dans la médina, la seule église, je pense, dans une médina au Maroc. Et vraiment, dans l'esprit de ces années, juste avant et juste après l'indépendance, c'est-à-dire avant l'indépendance, Tanger était administré par une gouvernement conjointe de plusieurs nations. Il y avait la France, l'Angleterre, les États-Unis. Donc, c'était vraiment une zone internationale. Donc, il a vraiment grandi dans ce contexte-là et avec une expérience qui a été produite par, bien sûr, l'histoire de la colonisation au Maroc, mais aussi par les cultures, les langues diverses de cette période. Il a aussi grandi juste à deux pas de plusieurs cinémas dans la médina. Il y avait le Vox, un cinéma juste au nord de l'église catholique, si je me trompe pas, où il y avait beaucoup de films égyptiens projetés pendant cette période. Et les cinémas de Tanger ont vraiment marqué Mohamed pendant cette époque. Il y a aussi le cinéma Alcazar, juste à la frontière de la Médina, avec beaucoup de films espagnols, beaucoup de films mexicains. Donc c'était vraiment un endroit croisé par plusieurs plusieurs langues et plusieurs histoires cinématographiques. Donc, il était né dans une famille croyante musulmane dont la poésie, la littérature était vraiment importante. Il est allé au lycée français et aussi à une école islamique. Et son père était un peu comme le père dans son film Le Gosse de Tanger. C'était un fiqh, un théologien, quelqu'un de très grande importance dans la médina de Tanger. Et qui était aussi fasciné et vraiment dédié pour ses enfants d'aller à une école française pour aussi apprendre la science occidentale ainsi que la science islamique. Donc, ça, c'était sa formation pendant cette période-là. Je pense que j'ai passé trop vite avec un plan. Voilà, c'est là. Et il a commencé ses études d'abord à Rabat, mais il a très vite gagné une bourse d'aller à l'IDEC, à Paris. Donc, il était à l'IDEC pendant 3 ans. Et l'important, il me dit, pendant ces 3 ans, c'était pas vraiment l'IDEC qui était à la fois un peu techniciste pour lui. C'était vraiment sa formation à la Cinémathèque française et au séminaire des grands penseurs de l'époque comme Claude Lévi-Strauss, comme Roland Barthes, qui a vraiment marqué Moumen pendant cette période. Donc, il est allé voir peut-être 4-5 films par jour. Et ça, c'était vraiment une formation aussi importante que la formation à l'IDEC. Donc, en plus, il écrit. Et il a écrit sur le cinéma, il est sorti beaucoup de livres sur le cinéma arabe bien sûr, mais aussi le cinéma mondial en français, en arabe. Il a traduit des essais et des pensées très importantes d'autres écrivains, réalisateurs comme Eisenstein, comme Rossellini. Donc, ce mouvement des langues, des autres langues, vers l'arabe est aussi très très important pour son œuvre et pour son travail. Donc cette question de la langue, des langues, c'est quelque chose qu'on va pas, on va parler plus aujourd'hui, je pense. Donc à la fin de ses études à IDEC, il a fait le court-métrage Simon pas de chance en 1970. Un film qui est franchement incroyable et qui a vraiment lancé ce projet de travailler avec l'image son comme une combinaison très très riche pendant toute sa carrière. Et à l'insistance de ses producteurs et ses collègues à Paris, il est rentré au Maroc en 1975. Pour travailler sur le film El Cherki. El Cherki ou Le silence violent. C'est un film qui est très représentatif du soi-disant nouveau cinéma arabe de cette époque au Maghreb. Et dans ce film, il expérimente beaucoup avec le récit, avec le langage cinématographique. C'est vraiment un essai de retravailler avec ces langues et pour échapper les discours et les histoires coloniales et de les remplacer avec des nouveautés, avec des langues un peu différentes et bien formées. Donc, ça, c'était ces deux films qui sont vraiment représentés à sa carrière pendant plusieurs ans. On parle beaucoup de ces deux films aujourd'hui, mais il a continué pendant une cinquantaine. Donc, il a fait un film tous les 5 ou 6 ans. Et en passant vers des styles divers, mais toujours avec ce son de vraiment travailler avec la combinaison image-son et avec la richesse de la pensée arabe avec la richesse de la pensée occidentale aussi, et de vraiment essayer de mettre en contexte tous les discours qu'il a expérimenté, qu'il a senti à Tanger pendant cette époque. Donc ça, c'est un peu de sa biographie. Pour moi, c'était aussi une rencontre personnelle qui a lancé ce projet, parce qu'en 2007, on s'est rencontrés dans le cadre du Festival de films arabes à San Francisco. Hein. On a projeté son film « Le gosse de Tanger ». Et Moumen est venu et je l'ai invité à mon cours de cinéma à Santa Cruz. On a parlé beaucoup de la théorie et de l'histoire du cinéma. Et je me suis dit, c'est quelqu'un très, très important dans le monde du cinéma en Afrique du Nord, dans le monde arabe, qui est très mal connu aux États-Unis, dans le monde anglophone et même dans le monde francophone aussi. Donc, j'ai décidé de consacrer mes recherches sur cette personnalité, cette figure très, très importante, mais aussi de vraiment utiliser son œuvre comme un moyen d'aller plus loin avec les histoires du cinéma dans la région. Et donc ça, c'est un peu les origines du projet et de Moumen aussi.
Dans l'introduction, vous revenez sur deux notions, celle d'auteur et celle qu'on pourrait dire de territoire. Votre critique vous permet de revenir sur ces cadres, sur ces deux cadres-là, en les dépassant, et aussi de critiquer plusieurs constructions binaires. Ceci vous permet, dans le premier chapitre, d'approcher plus finement l'hétérogénéité du cinéma arabe et celui de Smihi, et d'interroger, sans les opposer, la relation entre modernisme et populaire. Pouvez-vous revenir sur cette relation complexe et son rôle dans le processus créatif de Smihi ? En quoi le cinéma de Moumen Smihi va-t-il au-delà du réalisme pour montrer la construction moderne des subjectivités arabes et pour créer finalement ce qu'il appelle une anthropologie, une auto-anthropologie, une anthropologie à soi et pour soi?
Je suis toujours intéressé dans les environnements du cinéma où il y a plusieurs d'histoires qui se croisent. Donc, dans mon premier livre, j'ai essayé de travailler un peu sur les histoires du cinéma qui dépassent les questions de nationalisme et les histoires nationales. Donc, mon premier livre, c'était sur la représentation, pardon, et aussi les moyens de production des colonies de peuplement néo-zélandaises, australiennes et américaines pendant les années 20 vers 50. Et les liens coloniaux entre ces trois pays, avec le colonisation du peuplement et avec l'Empire britannique, toujours dans l'ombre dans cette période du Hollywood. Donc, c'était vraiment une triangulation, si vous voulez, des industries cinématographiques par rapport avec ces deux empires. Donc, c'était vraiment mon intention de passer, de dépasser une histoire, par exemple, de la Nouvelle-Zélande et le cinéma là-bas, qui était enfermé dans un contexte national, et de passer une autre fois une histoire de l'Australie enfermée avec ses propres objets, etc. Donc, c'était vraiment de montrer comment la colonisation a structuré ces trois industries, ces trois pays, et de vraiment rendre compte avec l'idée que le cinéma est depuis toujours transnational dans ses formations, dans ses formes et dans ses représentations. Donc, j'ai apporté un peu de cet esprit au projet-là, parce que si on pense à l'histoire du cinéma au Maroc, c'est aussi une histoire qui est vraiment touchée par plusieurs industries, plusieurs pays et plusieurs discours. J'ai un exemple en tête, ça, le livre magnifique de Ahmed Bonani, qui est déjà sorti il y a 10 ans après sa mort. Dans ce livre, Bonani fait une partie de son livre sur l'histoire du cinéma au Maroc. Pas le cinéma marocain exactement, mais le cinéma au Maroc. Parce que pour parler du cinéma, d'un cinéma marocain, il faut parler de l'histoire du cinéma au Maroc avant l'indépendance, avec les actualités françaises, avec toutes les choses qui se déroulaient pendant la période du protectorat. Donc, c'est un autre exemple de la nécessité, je pense, de vraiment trouver un moyen de rendre compte avec toute l'histoire d'un pays, hein, d'un cinéma. Donc, il y avait ce côté avec mon livre. L'autre côté, c'est de jongler un peu avec l'idée de l'auteur. Parce que là aussi, on a un moyen très, très commun, très, très au courant, avec lequel on parle d'un cinéma. C'est bien sûr très important, si on parle bien en anglais ou même en français, du cinéma du monde arabe, parce qu'il y a plusieurs auteurs qui sont absolument oubliés. On parle beaucoup d'un Renoir, d'un Scorsese, d'un Agnès Varda, des personnalités bien connues à l'Occident, mais on ne parle pas beaucoup des plusieurs des milliards de réalisateurs du monde arabe qui sont mal connus, inconnus. Donc, cette idée de l'auteur, c'est bien important parce qu'il faut vraiment récupérer les histoires du cinéma et des personnages très importants. En même temps, j'essaie avec ce livre d'utiliser l'idée d'un auteur, de faire une sorte de levier, de vraiment mieux comprendre le modernisme plus élargi dans le monde arabe. C'est-à-dire de ne pas rester seulement enfermé avec la géographie, avec un personnage très important, mais aussi d'utiliser cette idée de l'auteur et le travail fait par un auteur comme Smihi pour mieux comprendre les autres cinémas, les autres films, les autres réalisateurs autour de lui. Donc, je joue un peu avec ces deux conseils, comme vous avez bien remarqué, avec l'histoire d'un territoire, d'un pays, et aussi avec l'idée de l'auteur. Et j'essaie d'aller plus loin, aller plus loin, tout en utilisant les choses qu'on a apprises avec ces approches. Donc, vous parlez aussi de cette relation très importante de la populaire et du modernisme. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup pendant la période quand Moomin a commencé ses films. Parce que dans les années 60 et 70, après l'indépendance au Maroc, on peut voir vraiment un intérêt de travailler avec les traditions populaires oubliées, refoulées par la colonisation. Donc, on voit dans le contexte des magazines, des revues culturelles autour du cinéma, l'idée de récupérer ces histoires, de travailler avec une histoire oubliée. Par exemple, avec la revue Integral, qui était très importante pendant les années 70, vous pouvez voir ici dans cette image que je montre, surtout pour le public sur le podcast, j'essaie de décrire un peu les images. Donc, on a ici une très belle couverture d'Integral et aussi une page où on voit en haut une assiette un peu kitsch, fait pendant le protectorat, avec une image très belle de la Médina, avec un peu d'arabe autour de l'image, mais aussi un pain, un khoubz marocain, avec tamponné dedans des styles, des formes populaires. Et dans cet article, l'auteur essaie de faire la comparaison avec le kitsch colonial, mais avec en même temps les traditions populaires refoulées pendant cette période qui méritent la découverte, qui méritent d'être pensées dans le même contexte d'un art mondial. Donc, on voit avec la couverture le style moderniste parce qu'à la fois, les artistes, écrivains, réalisateurs étaient à la fois formés, je pense, c'est mon avis, à la fois formés par le côté de tradition et ce travail avec les fonds populaires et à la fois les mouvements internationaux. C'est-à-dire, ils ont contribué à l'art mondial, au modernisme international, pas dans une relation de dette, une relation de mimicry, mais en formant partie de ces expériences qui se déroulaient d'autre part aussi, comme vous avez signalé au début, dans les cinémas de l'Inde et de l'Afrique du Sud, dans d'autres pays, mais aussi au niveau de l'art. Donc, on peut suivre les interventions culturelles de cette période, notre image d'intégrale, une peinture par Hamid Alaoui. On a un article que Moomen a sorti en 2000, pardon, 1974 sur Ibn Haytham, Al-Hazen. Et avec cette histoire, l'origine d'une science de l'optique. Parfois, on pense au cinéma, on pense à la Renaissance européenne. Mais Moomen a trouvé, avec ce personnage-là, la base d'une science islamique de l'optique, bien avant la Renaissance européenne. Ça, c'est important aussi. Aussi que les peintures et les miniatures de Bagdad, là, islamique de notre époque. Donc, il y a aussi le journal, la revue Souffle, qui a beaucoup parlé et travaillé avec la question de la colonisation et comment échapper la relation coloniale pour créer une culture indépendante marocaine après l'indépendance. Mais c'était aussi à la fois international et bien très localisé. Donc, c'est cet aspect de parler à la fois d'un endroit très particulier, très bien ancré dans un pays et sa culture, mais à la fois d'être dans le courant, dans le flux des idées partout. Donc, on le voit aussi avec cet exemple de la revue Cinématoire. Cinématoire, on est rappelé par le mouvement Troisième Cinéma, qui était fondé en Afrique et aussi en Amérique du Sud, et avec cette idée de décoloniser l'écran, de pousser contre les cinémas européens, hollywoodiens, et de trouver un autre moyen d'expression. Donc, on peut voir dans la table de matière toutes les choses qui s'intéressaient à les fondateurs du journal, Nourdine Sahil et son équipe. On a un article sur le cinéma de Ousmane Sembène, il y a un article sur le cinéma de l'Amérique du Sud, il y a aussi des articles sur Jean Rouge et d'autres choses. Donc, c'était vraiment une scène culturelle qui était militante au niveau de la culture et aussi profondément liée au mouvement international aussi. Donc, j'essaie de rendre compte de toutes ces choses dans le livre en parlant du cinéma de Smihi, parce que lui aussi, il était formé pendant cette période et ses premiers films se partagent cet esprit d'expérimentation et de mobilisation.
Restons sur cette idée d'expérimentation. Les films de Simihi sont des films qui sont pensés comme des espaces de recherche et développement. On le voit même dans les génériques, hein, c'est quelque chose qui apparaît dès la première image. Donc ce sont de véritables laboratoires où le réalisateur, qui a plusieurs fonctions, expérimente des manières de dire, de montrer, d'entendre et d'écouter. Et c'est, vous revenez beaucoup hein, dans vos chapitres 1 et 2 là-dessus, sur l'image et le son. Comment est-ce que le travail conceptuel sur l'image et le son fabrique-t-il des articulations qui permettent à l'auteur de transmettre ses préoccupations à la fois esthétiques, politiques, socio-historiques et anthropologiques? Je pense ici notamment aux soins qui accordés à cette question du beau, aux objets, à la beauté des intérieurs et de l'intériorité marocaine notamment, qui rend possible de réarticuler un peuple ou de le refaire tenir ensemble dans un monde post-colonial détruit par le colonialisme.
Vous avez signalé quelque chose de très important. C'est vraiment le mouvement entre le réalisme et le modernisme dans son travail. Et c'est vraiment une relation vraiment un peu tendue et aussi très importante avec son travail. Par exemple, j'ai deux images ici de son premier film Simo, Pas de chance. Il y a bien sûr un sous-titre qui est tiré d'un poème de Paul Eloi, un poète surréaliste français. Mais vous pouvez voir l'image de Simo, le jeune ouvrier maghrébin qui est au centre de ce film, qui se déroule à Paris avec d'autres ouvriers. Et c'était vraiment dans la vie de Moumen, il a parlé de ce film comme un descent vers l'enfer. C'est un peu de Dante. C'est un descent vers l'enfer capital de Paris dans ce moment. Et il y a bien sûr d'autres films qu'il a fait qui présentent l'idée de Paris, les lumières et tout ça comme quelque chose de très riche. Dans ce film-là, c'est aussi un endroit qui opprime l'ouvrier maghrébin vient d'arriver pour chercher un travail. Donc, vous voyez le côté très réaliste de ce film dans cette image, et c'est vraiment un côté un peu documentaire dans le film. Mais c'est aussi un film qui est très travaillé et formé avec des choses qui vont contre cet esprit du réel et du documentaire. Et surtout les sons, la bande sonore des films et les sons exacts dans le film, qui sont vraiment en opposition parfois avec l'image. Donc cette relation image-son, il commence avec ce film et ça continue dans plusieurs films. Donc parfois le son rend l'image moins fiable, moins sûre, moins certe. Et c'est ça que nous amène un peu vers le modernisme. Et l'idée de travailler avec les aspects du réel, mais pour mieux exprimer la fragmentation, les difficultés d'une vie moderne aussi. Mais vous avez également parlé de la beauté de ces films, et ça c'est aussi une chose très très importante. Avec cette idée de ciné-écriture que j'emprunte de Agnès Varda et bien sûr de d'autres cinéastes, il travaille avec cette forme de ciné-écriture de vraiment croiser les frontières entre le réalisme et le modernisme. Et bien sûr, dans l'histoire de la théorie cinématographique, il y avait deux pôles à une certaine époque, le réalisme et le modernisme. Ils étaient vraiment opposés. Donc, c'est des gens comme Smihy qui les mettent en contact et en opposition pour mieux faire quelque chose d'autre. Et c'est avec ces films, c'est vraiment un essai, je pense, de jouer avec les signes d'une culture. On voit ici sa formation avec Lévi-Strauss, avec le mouvement structuralisme des années 60-70, d'essayer de montrer des signes à déchiffrer dans ces films et de les monter en opposition. Donc c'est vraiment cette expérimentation aussi faite dans le mouvement dont j'ai parlé tout à l'heure du troisième cinéma. Et ce qui est intéressant pour moi dans cette relation, c'est aussi la tension d'aller plus loin des images un peu granuleuses, un peu rugueuses, les images qu'on associe avec un réalisme. Donc avec son film 44, c'était un film de 1981. C'était vraiment un essai de montrer le beau et la beauté de la culture marocaine et aussi de révaloriser cette culture et ces images. Il y a deux points de référence, deux ou même trois points de référence que je trouve très importants ici. C'est le discours de Mouman lui-même. Il a parlé beaucoup de l'idée pendant cette époque de Black is Beautiful, tiré des Black Panthers. Et l'idée de récupérer l'image d'un peuple, d'une race, de la destruction d'une société raciste et colonialiste. Et donc, il parle de ce film comme un essai de faire un Black is Beautiful avec la culture marocaine et ses signes. Par exemple, avec les alliges, avec les costumes, avec les pratiques populaires, avec la lumière, avec les villes, et de les rendre d'une manière très très précise et avec beaucoup de beauté. Je parle aussi avec l'idée de mon ami et ma collègue Rosalind Gold qui a écrit un livre sur exactement ce clivage-là entre le réalisme conçu comme quelque chose très rigide et masculin et la dénigration de la beauté dans l'image cinématographique. C'est-à-dire que parfois, si on trouve des images très, très belles ou pretty, c'est le titre de son travail, c'est aussi des images qui sont dénigrées. Donc, Mouman, il essaie aussi de révaloriser ces images. Et c'est aussi une idée qui était très importante pour un réalisateur comme San Ynez, qui a parlé beaucoup de la nécessité pendant les années 70 de trouver ces images d'une culture et de les mettre en opposition au discours colonial. Donc, ça, c'est aussi important. Exactement.
Restons sur cette idée du son. Donc, vous consacrez une analyse riche et passionnante à l'univers sonique de Simihi. Il a cette particularité, hein, comme d'autres réalisateurs marocains, comme Ahmed Bouanani, de troubler les frontières entre différents registres soniques et de tisser des liens et des continuités entre bruit, musique, voix, les personnes qui chantent, la radio, les chants. Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur la particularité et la centralité du son dans l'œuvre du réalisateur et comment est-ce qu'elle rend compte de la profondeur et de la multiplicité et des spécificités finalement des univers sociaux marocains et arabes?
Oui, le son, c'est toujours très important. Vous parlez justement d'un univers sonique. Moi, j'utilisais le mot en anglais « soundscape », mais je pense que c'est la même idée de parler vraiment d'un paysage, d'un terrain auquel le son est très important. Donc, profondément, son approche à la bande sonore, c'est de vraiment mélanger les sources du son. Je travaille beaucoup avec les recherches de Michel Chion dans ce livre qui parle des trois sources du son cinématographique. On a la voix, on a la musique et on a le bruit. Et parfois, si on voit un film hollywoodien très classique, les trois sources du son sont bien clairement marquées, définies, bien séparées pour la plupart du temps. Donc, l'approche de Moomin, c'est de bien mélanger ces sources et de faire vraiment une sorte de chevauchement avec les prix, les voix, la musique. C'est une polyphonie de langue, de la musique et aussi avec ça, des discours. Parce que les sons sont toujours liés à une histoire, à une approche, à un mode de pensée. Donc, on a beaucoup de sons diégétiques du monde du récit dans ces films. On voit ici, c'est aussi un peu entre la fiction et le documentaire, c'est le musicien très bien connu à Tanger, Abdallah Al-Gourd, musicien Gnawa. Qui joue sur le toit dans le film Le Ghost de Tanger. La scène dure la longueur de son chanson. On est là, on regarde, on écoute, et c'est très important. Mais aussi dans les films, radio et voix se deviennent de plus en plus importants comme un des signes des flux transnationaux et d'une intertextualité qui est très important. Par exemple, on a beaucoup de radios dans la mise en scène de ces films à Tanger. Je parle surtout de la trilogie de Le Ghost de Tanger, les cris de jeunes filles des hirondelles et le troisième film Tanjawi. Et il y a beaucoup de radios. Et on les voit partout. Il y a ici, dans cette image d'un autre film, 44, une famille casablancaise qui écoute Salt l'arabe, la voix d'arabe, l'émission de Nasser du Caire pendant la période coloniale. Et la famille est scotchée à la radio dans ce plan-là, qui est au centre de la mise en scène. Il y a aussi la présence de quelqu'un comme Umm Kulthum, qui est partout dans les films. Le son de ses chansons, son image, comme ici dans le plan que je montre, avec bien sûr une radio et aussi la photographie de Umm Kulthum. Donc, on a toujours ces traces d'un autre monde, d'un monde plus élargi, que le Maroc et que le Tanger. Et c'est vraiment comme ce monde est construit par la bande sonore de ces films. Ça, c'est une idée que je trouve très intéressante. J'ai même un petit clip du son aussi. Les clips avec les images ne marchent très bien avec Zoom, mais j'ai préparé deux clips du son. Donc, si vous me permettez. Il y a ici un clip sonore de son film Le Ghost de Tanger. Voilà, c'est là.
Fuyant l'Espagne franquiste, les terres sans pain. Les Espagnols étaient les seuls Européens à vivre dans la Médina. Flux et reflux de l'histoire, après que les Arabes aient fécondé l'Espagne et l'Europe des siècles durant, c'était au tour des Espagnols de déverser dans les rues et les ruelles musulmanes les bouquets fruités de leur vin et le fumet de leur jambon. Dans la Médina colonisée, on entretenait une vie traditionnelle, mais désormais fascinée par le nouveau monde qu'apportait le boulevard. Ceci est l'histoire d'une famille de la Médina de Tanger dans les années 50.
Donc, Donc, vous pouvez entendre, je pense, les discours qui se chevauchent dans ce clip. Et avec les images que je présente ici, il y a trois langues dans le plan. On voit un peu les trois plans qui sont une partie de cette séquence. Et on a l'idée de plusieurs choses qui se chevauchent et qui ont mis en même temps dans cette bande sonore, les chansons, le mouton, il y a un bébé qui crie, il y a la voix off, mais aussi tous les sons qui sont dans le monde du récit lui-même. Et ça c'est un peu le moyen de faire une sorte de palimpseste du son qui s'exprime beaucoup, je pense, dans ces films.
Et je voulais passer directement à ce que vous, au traitement que vous faites de l'intertextualité dont vous avez parlé dans votre chapitre 3. Vous revenez en fait sur les généalogies du processus créatif et intellectuel de Smihi et notamment sur le rôle de la Nahda. Donc vous envisagez la Nahda comme un élargissement des possibles où reconfiguration et traduction ne signifient pas reproduction d'une modernité européenne. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste cette intertextualité chez Smihi, qui dénote un amour du cinéma, pour reprendre les mots que vous utilisez, un amour du savoir également?
Ce qui est très important, je pense, avec cette idée par rapport avec ces films, c'est comment vous avez commencé avec cette idée de la populaire et aussi des choses d'un monde plus élargi. Donc, l'intertextualité du Smihi se construit de textes de tradition qui sont arabes, amazigh, européens, africains, vraiment de partout. Et c'est l'idée encore un peu avec l'aide du son de mettre en relation tous ces discours avec leurs propres traces. C'est de ne pas mélanger dans une sorte de soupe, mais de vraiment garder les traces des discours très complexes et très précis qui se croisent dans le film et qui s'expriment quelque chose d'une histoire très très riche qui est important à ces films, surtout de cette base à Tanger. Parce qu'on revient beaucoup à cette idée de Tanger et l'importance de Tanger dans ces films. Je parle de cette ville un peu comme une antenne qui reçoit des discours et des idées, des langues, des textes du partout. Donc, ça me permet de parler un peu d'un modernisme dit vernaculaire. Et j'emprunte la notion de Miriam Hansen, la théoriste du cinéma. C'est-à-dire, c'est un modernisme qui est à la fois populaire, on pourrait dire shaabi, populaire et aussi plus international. Donc, on a des exemples dans les films. Par exemple, il y a l'Halqa. La tradition de la narration orale qui fait une très importante partie de plusieurs films, surtout Chronique marocaine et 44. La figure de Hakawati ou de narrateur de Halqa est aussi très, très, très importante. Donc, il y a aussi cette intertextualité qui joue un rôle d'une auto-ethnographie dans son travail. Et c'est vraiment de trouver un moyen de parler de son monde pour nous comme critiques, et surtout je parle de ma place aux États-Unis, ma base en ce moment. J'ai grandi en Nouvelle-Zélande, c'est un peu la trajectoire de mon premier livre, Nouvelle-Zélande, Australie, États-Unis, mais de parler de l'Occident et du monde anglophone, ces films se mettent au centre ces discours et on pourrait les trouver comme très, très, très importants d'un modernisme qui n'est plus à l'Occident et séparé du monde arabe, mais qui est impliqué aussi dans ce monde. Et ça nous vient de cette idée de nada, le soi-disant Renaissance arabe, de lecture, traduction, féminisme, des débats culturels, politiques. Et je l'utilise cette histoire de nada de repenser les relations entre cinéma, culture, modernité dans cette région. Et je suis vraiment frappé par le texte de Rebecca Johnson qui a fait une lecture très importante d'Ahmed Faris Achediak, qui était personnalité fondatrice de Nada Libanais. Elle parle de l'engagement de Chidiac, l'engagement avec d'idées en Europe, du site du Liban et en arabe. Ça, c'est ma traduction de l'anglais, mais c'est la même idée. L'engagement avec des idées d'un site, en ce cas-là, du Liban et en arabe. Et ça, c'est l'important parce que c'est une relation d'échange et pas de reproduction. Donc, intertextualité dans ces films, c'est vraiment lié à cet esprit de nada.
Dans les deux derniers chapitres, vous développez sur les apports de la pratique cinématographique de Smehri au débat qui enferme un petit peu le monde arabe entre tradition et modernité, en tout cas qui ont enfermé longtemps le monde arabe entre ces deux pôles-là. Et donc, les deux débats importants, donc il s'agit évidemment des débats sur la religion musulmane et ceux qui portent sur plus spécifiquement le genre et les sexualités. Au-delà de cette dichotomie tradition-modernité qu'il réfute, que Smehri lui-même réfute, comment est-ce qu'il essaie de rendre compte d'une modernité arabe tout en soulignant les fissures qui sont créées par une modernité coloniale? Comment est-ce que cette écriture, hein, ciné-écriture pour reprendre le terme, en rend-elle compte?
Dans ces deux chapitres, j'essaie de vraiment faire un autre contexte pour ces idées qui se circulent beaucoup dans notre monde occidental de la religion, la sexualité, le genre, et de vraiment se détacher les associations entre ces mots, comme ils sont utilisés ici en France ou aux États-Unis, et de vraiment montrer un monde marocain qu'il décrit dans le film et un monde arabe qui est pluraliste, qui est divers, et en retour, en même temps, à sa vie, à son enfance à Tanger. Parce que ces films animent les débats de très longue date avec ces idées sur la science, religion, le genre, la sexualité, qui sont vraiment, ils sont bien sûr dans les débats de la nada, mais aussi de très longtemps, bien en avant. Donc, j'essaie de mettre en contexte historique quelques idées avec les précédents que je vois et que je trouve dans les films, les précédents dans la poésie, dans la littérature arabe, avec des écrivains, par exemple, des poètes comme Al-Ma'ri, Abu Nawas. Vous avez les histoires très très longues de débats, de pluralisme dans cette pensée arabe. Et ça, c'est important de comprendre les films. Parce que, par exemple, dans l'image que je montre ici, il y a l'importance de l'espace féminin, qui n'est pas simplement un espace des femmes opprimées ou refoulées, voilées, tout ça. C'est vraiment dans les films de montrer les espaces féminins qui sont avec beaucoup de pouvoir, beaucoup de possibilités. Vous voyez ici le jeune homme Mohamed Larbi, tout à droite de l'encadrage, est vraiment poussé de la scène par les femmes. Et c'est vraiment des espaces qui sont vraiment vivants et très importants. À la fois, il y a aussi la critique de l'intérieur d'une société qu'il monte avec ses précédents dans la pensée arabe. Et pour ça, j'utilise beaucoup dans ces deux chapitres l'œuvre très importante de Fatemeh Mernissi du Maroc, et aussi mon collègue en ce moment, Alimer Aziz Lazmeh, qui ont vraiment exposé ces liens et ces histoires très riches, très importantes du débat, de contestation et d'une pensée autre. Et ça, c'est très important, je pense, dans ces deux chapitres.
Je voudrais peut-être revenir un peu plus sur votre travail de manière un peu plus générale et essayer de dézoomer de Moumen Smihi. Je sais que vous avez mis sur pied plusieurs programmes de films de Moumen Smihi, mais d'autres réalisateurs dans le cadre de festivals et autres. Et pouvez-vous dire pourquoi et comment est-ce que vous avez mené ce volet de votre travail de recherche?
Un des problèmes, je pense, pour un cinéphile, pour quelqu'un qui s'intéresse au cinéma ici en France ou même aux États-Unis ou d'ailleurs, c'est de vraiment voir l'histoire du cinéma arabe. C'est bien possible maintenant de voir quelques films qui sortent dans les cinémas, mais de vraiment trouver l'histoire du cinéma, c'est très difficile de voir ces films. C'est même difficile dans le pays d'origine. Donc, Chergui n'était pas programmé au Maroc jusque, je sais pas, probablement 2000 ou même trois décennies après sa sortie dans les salles. C'est pareil pour beaucoup de cinéastes du Maroc de la même génération. Et encore une fois, Mohamed Bouanani parle beaucoup de ce problème dans son livre sur le cinéma au Maroc. Donc, il y a le manque d'accès à cette histoire. Donc, pour cette raison, en commençant avec mes recherches, je me suis dit, c'est très important de montrer les films, de montrer les films dans les salles, aux États-Unis, en mon cas. Donc, j'ai programmé 6 ou 7 films de Moumen Smihi et on les a projetés à San Francisco, à Chicago, même à Londres. Et ça m'a permis de vraiment engager un public, de parler des films, de voir les réactions des spectateurs et tout ça. Mais c'est quelque chose que je trouve très important avec le travail de l'histoire, c'est de montrer, projeter, parler du film avec un public et de vraiment mettre en discours toutes ces choses. Donc, c'est pour cette raison. Il faut être historien, programmateur en même temps, je pense. Un peu archiviste aussi.
Merci Peter. Nous avons maintenant quelques minutes pour prendre les questions de notre public et de nos auditeurs.
À la fois une question et une remarque. Je pense que l'une des idées les plus importantes dans ce que vous avez dit, peut-être ce que vous avez écrit aussi, par rapport au rapport à la modernité, donc ce moment des années 70-80, qui est un moment extrêmement, peut-être pas uniquement au Maroc, peut-être dans d'autres pays maghrébins, ce moment d'une modernité très décomplexée et surtout inscrite dans la contemporanéité, c'est-à-dire que au même moment, moi je me rappelle ces dates-là, oui. En tant que cinéphile, j'étais un peu dans ce monde, au même moment où, c'est-à-dire Smihi, moi je me rappelle la première fois où j'ai vu Smihi, c'est au Festival d'Azila en 82, et on était dans une table ronde autour d'écriture du scénario. Alors, avec Smihi, bien sûr, mais il y avait à côté Ettore Scola. Donc, la discussion était.
Oui.
Et Alberto Moravia. Donc,
oui.
On peut situer le moment et la discussion autour de la créativité, etc.
Oui.
Ça, je pense que c'est quelque chose. Et c'est pas uniquement Smihi, c'est à la fois l'école française du cinéma avec Nani. Hamid Benani Smihi, et surtout, et aussi l'école, j'allais dire, l'école soviétique polonaise.
Oui, absolument.
Qui était extrêmement, oui. Avec le Kta et les Tarkawi. Donc, je pense que et c'est la même chose dans les arts plastiques aussi.
Oui.
Avec là aussi les deux écoles.
Formations.
Et là, on oublie aussi que l'autre chose qui est extrêmement importante, qui fait lien, et là, je pense, avec ce moment-là, c'est Smihi a fait une licence de philosophie à la faculté de lettres au moment où toute une série de grands personnages enseignent à la faculté de lettres, dont Roland Barthes.
Oui, oui.
Et avec une génération qui, elle, c'est la génération de Saïd, c'est la même proposition de Tarbi Jibon, de Abdul Fidadi, qui ont une compréhension de la modernité extrêmement intéressante.
Ce rapport à la modernité, c'est pas une sous-traitance de la modernité, c'est une production de la modernité en même temps qu'elle est en production ailleurs.
Exactement.
Et je me rappelle que le débat autour, par exemple, du cinéma, les Lacaniens étaient présents, avec Seyl qui a introduit ce débat, ou même le débat autour du cinéma nouveau brésilien. Tout ce débat était convoqué.
Oui, il y avait saison 3, très important. J'ai un ami, collègue, Marcia Salajkina, qui a écrit en ce moment sur le festival de Tashkent. Donc ça, c'est un autre endroit qui est une rencontre, un point de rencontre pour plusieurs cinéastes du, soi-disant, troisième monde. Donc, il y avait au Maroc beaucoup de contradictions avec cette période, parce qu'on parle tout le temps des années du plan. Et bien sûr, c'était une période très, très difficile. Mais en même temps, ce qu'il a produit est vraiment incroyable avec ces échanges. Et c'est vraiment cet esprit d'un échange. Les échanges ne doivent pas être complètement égaux. Mais j'essaie de vraiment échapper cette idée que c'était toujours une modernité occidentale imposée sur un monde passif et très, parce que c'est vraiment la richesse d'un échange. Et c'est ça que je trouve très important dans le travail récent de Tarek Al-Haris sur la NADA avec mes collègues Léa Morin et Marie-Pierre Boutier et d'autres qui étudient cet axe que vous avez décrit de Pologne et du monde soviétique et le Maroc. C'est vraiment des échanges très importants. Pas seulement par la formation, mais aussi par les productions qui sont suivies.
Il y a un autre aspect sur Mounsmehi, ce que vous avez vu par rapport à sa lecture du patrimoine, qui est très... Ce n'est pas uniquement une lecture empruntée, c'est une lecture qui vient du fond, parce qu'il a été éduqué traditionnellement lui-même, et surtout les rapports avec la figure d'Abdullah Gounou. C'est Abdullah Gounoun à Tanger, parce que je pense qu'ils avaient un lien familial qui est une des figures justement d'une tradition, là aussi d'une tradition, mais qui, c'est pas paradoxal ce que je dis, mais une tradition très moderne, c'est une lecture de la tradition. Gounoun, c'est un autodidacte, mais qui était justement en discussion avec l'Orient, avec les grands de la Nada, mais avec une sorte d'interprétation de la Nada, qui est une interprétation autochtone. Tu sais, quand il fait son livre sur l'excellence marocaine, donc qui est un livre de réponse aux orientaux, sur dire, bon, ici aussi on produit un rapport à l'arabité, à l'arabe, à la langue arabe, à la littérature, à la poésie, qui est très particulier, très occidental au sens géographique. Et Smehi a... Il y a une relation cordée aux d'autres, comme les Aqlaïs, comme le Barada aussi. Une relation à cette figure qui est une figure très locale, mais en même temps très universelle, parce que l'humanité est universelle.
Si ça peut me laisser de ajouter quelque chose de très important sur le côté cinéma, c'est aussi de, parfois il y a une question comme pourquoi vous parlez beaucoup de modernisme avec ce cinéma, pourquoi pas simplement cinéma marocain ou cinéma algérien ou quelque chose d'autre. C'est vraiment pour moi, c'est vraiment l'idée que il faut avoir et suivre ces débats d'un contexte où on évite de sillonner des choses ici et là. Donc on parle de la modernité et de le modernisme ici, et on parle des cinémas nationaux, de l'Algérie, Maroc, Palestine, tout ça. Mais il y a un livre très important sur Satyajit Ray qui fait l'argument que de mettre Satyajit Ray que dans le contexte indien, c'est de réinscrire la séparation entre l'idée d'un modernisme international qui se déroule en Europe et les autres. Et c'est vraiment ce sens que je veux vous décrire très bien de tous ces échanges dans un espace comme Tanger. Et c'est pour cette raison qu'il faut, je pense, parler de ce cinéma-là, de Smihi, de Buonanni, de toutes ces figures, en même temps que les cinéastes européens de l'Amérique et tout ça. Parce que ça, c'est l'espace de la critique plus honnête et vraiment plus efficace, je pense, en ce moment.
C'est vrai que c'est un moment aussi où l'échange dans les années 80, par exemple, une littérature des cahiers de cinéma, extrêmement présente, mais pas présente au niveau des cinéastes, présente au niveau d'un champ intellectuel très... Là aussi, chaque année, sous la houlette de certains gens... qui inscrivent aussi dans l'international. Vous recevez, c'était des choses animées par Serge Danet, par exemple, par Canet, qui animait des ateliers de critique cinématographique qui étaient très avancés à l'époque, ou même par la découverte du cinéma allemand, du néoréalisme italien, qui était très très discuté, sans que ça soit quelque chose d'extérieur à la scène. C'était quelque chose qui est dedans, c'est exact.
Il faut se dépêcher parce que ces géants...
Effectivement, oui. Effectivement, ça pose le problème d'archives.
Oui, exactement. Oui, c'est une histoire très fragile.
Cette idée d'archive, je pense que d'ailleurs vous revenez sur cette question de Narda comme une archive, et j'ai trouvé l'idée assez intéressante. Mais moi, j'avais une question pour revenir un peu sur Tanger, en fait, sur la ville qui est important. Par curiosité, je me demandais, parce que le Tanger que l'on voit chez Smihi, alors j'ai pas eu l'occasion de voir vraiment tous ces films, parce que voilà, pour les raisons que vous avez évoquées, c'est difficile d'y accéder. Mais j'avais cette impression qu'on était sur un Tanger du passé, essentiellement. Donc il travaillait beaucoup sur ce Tanger-là. Et je me demandais quel est son rapport au Tanger actuel. Est-ce qu'il a des projets de travailler sur un Tanger plus contemporain, ou peut-être qu'il a déjà fait et j'ai pas eu l'occasion de voir ça.
Il passe toujours beaucoup de temps là en faisant ses projets. Je peux pas parler pour lui, mais le Tanger d'aujourd'hui, c'est bien d'autres choses. Après, c'est 10 ans, 15 ans, même pendant le temps que j'ai passé moi-même à Tanger en faisant la recherche, la première fois c'était en 2010. Ma première visite, il a beaucoup changé depuis 2010 avec le port et bien d'autres choses. Donc, je pense que je parle justement quand je dis que pour Smihi, comme pour d'autres réalisateurs, écrivains, il y a quelque chose de très important de parler en ce moment du passé, parce que on n'a pas terminé avec le passé, on n'a pas terminé avec le Tanger des années 50-60. Bien sûr, il faut parler du présent et de parler comme vous avez travaillé vous-même sur les particularités de Tanger au présent. Et pour ça, je cite le film extraordinaire de Leila Kilani sur la planche, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Mais je pense que j'ai raison quand je parle pour nous-mêmes, c'est parler du passé. Donc, par exemple, ces projets en ce moment, ce qui concerne Ibn Rushd, Ibn Battuta, c'est vraiment du parler d'une passé arabe, bien méconnu et oublié ou même refoulé. Donc, ça, c'est aussi un travail du présent, mais en parlant du passé. Donc, je pourrais dire ça. Pour le reste, je passe le discours à moi-même.
Par rapport à ce que vous dites, ça me rappelle ce passage très très important, tout le travail qu'il a refait pour faire revivre Ibn Tufayl et son livre, sur lequel il se base en fait, dans le gosse de Tanger. Oui, c'est vrai qu'il y a une espèce de traduction aussi à l'intérieur même de ces grands classiques, mais ignoré, méconnu, peu connu ou mal connu. Merci encore, Peter, pour cette séance. Donc, cet épisode de Livre Imam est désormais terminé. Je vous rappelle donc le titre du livre de Peter Limbrick, Arab Modernism as World Cinema, The Films of Mumin Smehi, qui est paru en 2020 chez University of California Press. Et vous pourrez revoir ce webinaire sur la chaîne YouTube de Livre Imam et le réécouter en podcast sur Anchor, Spotify, Apple Podcasts, et bientôt d'autres plateformes.
Et j'espère beaucoup pour des traductions à venir, parce qu'on a parlé beaucoup des langues. C'est très important pour moi de sortir le livre en arabe et aussi en français. Donc, soyez en contact pour les nouvelles, je crois, les doigts.
Alors, on attend avec impatience la version arabe de Arab Modernism. La prochaine séance de Livre Imam aura lieu le mardi 3 mai à 14h. Et l'invité sera Reza Zia Ebrahimi du King's College London, qui présentera son livre « Antisémitisme et islamophobie, une histoire croisée » paru aux éditions Amsterdam en 2021. L'entretien sera animé par Thomas Pierret et Vincent Gesser. Merci encore, Peter Limbrick, de nous avoir accordé cet entretien, et merci à nos auditeurs auxquels nous donnons donc rendez-vous mardi prochain.